Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Un homme a ouvert le feu hier devant la mosquée de Bayonne, blessant grièvement deux personnes. L'assaillant a été arrêté, c'est un octogénaire, ancien militaire. Il reconnaît les faits. Une attaque en plein débat sur le communautarisme et sur le port du voile en France. Ce mardi justement, les sénateurs vont examiner une proposition de loi pour interdire le voile en sortie scolaire. Nous y reviendrons dans un instant. Dans ce journal également, nous ferons le point sur le retrait des Kurdes dans le nord de la Syrie. La date limite fixée par la Turquie est aujourd'hui mardi. Et puis nous irons en Bolivie où les manifestations pro et anti-Morales se poursuivent sur fond de violence verbale et physique, vous l'entendrez. L'auteur présumé de l'attaque qui a eu lieu hier après-midi devant la mosquée de Bayonne a été interpellé dans la foulée à son domicile. Il s'agit d'un homme âgé de 84 ans. Ses deux victimes, deux hommes de 74 et 78 ans, sont grièvement blessés. Elles sont toujours hospitalisées ce matin. Hier soir, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ainsi que le secrétaire d'État, Laurent Nunez, se sont rendus à Bayonne. Ils se sont entretenus avec le président de l'association du culte musulman de la Côte Basque, ainsi qu'avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dalil Boubaker. Laurent Nunez a ensuite pris la parole.
S'en prendre à un lieu de culte, s'en prendre à une mosquée, s'en prendre à des fidèles, c'est un acte odieux que nous condamnons bien évidemment avec beaucoup de fermeté. C'est un acte qui ne peut pas avoir sa place dans notre République, qui garantit la liberté de culte, la liberté de croyance. Les musulmans de France doivent pouvoir exercer leur culte en toute sécurité. Et nous devons bien évidemment garantir cette sécurité, c'est ce que je suis venu rappeler. Dire que l'État sera bien évidemment toujours à leur côté pour garantir cette sécurité dans l'exercice du culte et dire que nous serons toujours à leur côté pour rejeter toutes les haines d'où qu'elles viennent.
Cette haine, cet attentat a été commis, je vous le disais, par un octogénaire ancien militaire, ancien candidat du FN lors d'élections départementales en 2012. A-t-il été poussé par le climat du moment sur la place de l'islam et sur la possible stigmatisation des musulmans? En tout cas, ce débat entre au Sénat ce mardi. Une proposition de loi du groupe Les Républicains sera examinée pour interdire le port du voile lors des sorties scolaires pour les parents d'élèves. La droite y trouve un terrain pour défendre ses valeurs. Pierre Neveu.
C'est au printemps que la droite sénatoriale a tenté de faire modifier le code de l'éducation dans le cadre du projet de loi sur l'école de la confiance. Mais l'amendement n'a pas été soutenu par le gouvernement. Début juillet, la sénatrice du Val-d'Oise, Jacqueline Eustache-Brignon, a déposé une proposition de loi pour que l'interdiction du port des signes religieux ostensibles soit étendue au temps des sorties scolaires. Mais depuis, un élu Rassemblement national de Bourgogne-Franche-Comté a relancé la polémique. La loi est donc nécessaire pour clarifier les choses, explique Max Brisson, le sénateur des Pyrénées. Les Atlantiques, il est le rapporteur du texte.
Nous pensons aujourd'hui qu'il y a un trou dans la raquette. Les personnels de l'éducation nationale et des collectivités sont soumis à la neutralité. Les élèves aussi, ce qui fait d'ailleurs d'éducation nationale le seul service public où les usagers sont soumis à la neutralité. Les intervenants qui rentrent dans la classe sont également soumis à cette neutralité, et ceci depuis la jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Lyon. Finalement, seuls les accompagnants des sorties scolaires ne sont pas soumis à cette neutralité du point de vue des religions. Or, la sortie scolaire, c'est la classe hors des murs, c'est la classe qui se poursuit, c'est un projet pédagogique, c'est une sortie obligatoire. Et donc, nous pensons qu'il faut être cohérent et qu'il faut protéger l'école. La neutralité de l'école, c'est un bien précieux, notre République, elle doit être totale.
Une proposition de loi qui risque d'alimenter la polémique, alors que le Premier ministre a rappelé son opposition à une nouvelle loi sur les accompagnateurs scolaires, mais la question divise au sein de la majorité. En attendant un grand discours, le chef de l'État demande au CFCM d'avoir une parole forte sur la place du voile des femmes et l'école républicaine. Le président qui rappelle le devoir de neutralité dans les services publics.
Un débat donc cet après-midi au Sénat. À l'Assemblée nationale ce mardi, en revanche, les députés vont, eux, se pencher sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Un vote en première lecture est prévu cet après-midi. Sont notamment inscrits dans ce texte l'expérimentation de l'usage médical du cannabis, l'obligation de stocker des médicaments pour prévenir d'éventuelles pénuries ou encore la réindexation sur l'inflation des retraites inférieures à 2 000 euros par mois. Des peines alourdies pour ceux qui poussent les femmes au suicide. homicides. Elles étaient l'an dernier 217. Des peines alourdies donc. Voici l'une des propositions faites par un groupe d'experts à l'occasion du Grenelle des violences faites aux femmes. Ce Grenelle se conclut aujourd'hui. 65 propositions au total ont été retenues par le gouvernement. La formation des forces de l'ordre est également soulignée. Pour la secrétaire d'État Marlène Schiappa, aucune victime ne doit repartir d'un commissariat sans connaître ses droits et sans savoir où trouver du soutien. Les Kurdes de Syrie avaient jusqu'à aujourd'hui, mardi, pour retirer leurs armes lourdes de la frontière avec la Turquie, au nord de la Syrie. Cela avait été acté lors d'un accord entre Moscou et Ankara, en pleine offensive turque contre les Kurdes. Et ces derniers se sont donc retirés au Marwaman.
C'est la mort dans l'âme que les forces kurdes se sont retirées de la frontière avec la Turquie. Un retrait d'une profondeur de 32 kilomètres, comme le prévoit l'accord conclu il y a tout juste une semaine entre Ankara et Moscou. Des témoins ont vu ces derniers jours s'étirer de longues files de blindés et autres véhicules militaires. Tout ce que les combattants kurdes compte d'armes lourdes a été évacué, un armement fourni en grande partie par les États-Unis pour combattre Daesh, mais lâché par Donald Trump, ces Kurdes n'ont pas eu d'autre choix que de se plier à cet accord qui met fin à leur autonomie dans cette région au profit du régime de Bachar el-Assad dont les soldats ont fait leur grand retour dans le nord-est de la Syrie. C'est eux qui assureront le rôle de garde-frontière. Autre volet du traité, à partir d'aujourd'hui, des patrouilles conjointes des forces turques et russes seront menées pour s'assurer que les combattants kurdes n'y sont plus. Dans le cas contraire, Ankara reprendra son offensive.
Le corps du chef de Daesh a été immergé en mer hier, c'est ce qu'affirme le Pentagone. Une procédure qui rappelle le sort réservé à Oussama Ben Laden, tué par un raid américain au Pakistan en 2011. Et cela permet en fait d'éviter qu'une tombe ne devienne un lieu de pèlerinage. Abu Bakr al-Baghdadi s'était fait exploser ce week-end en Syrie pendant un raid américain. Pendant ce temps, hier en Irak, à Bagdad, des milliers de personnes ont défilé malgré le couvre-feu instauré par le gouvernement. Hier, des étudiants, des écoliers ont envahi les rues de la capitale ainsi que de nombreuses autres villes du sud du pays. Tous réclament la chute du régime irakien qu'ils jugent corrompu. Manifestation monstre également en Bolivie. Après l'annonce de la victoire d'Evo Morales dès le premier tour de la présidentielle, les Boliviens pro et anti-gouvernement s'affrontent dans les grandes villes du pays. Face aux partisans de Morales, l'opposition dénonce une fraude électorale et une grève générale dure depuis maintenant plusieurs jours. Voici le reportage de notre correspondante sur place, Alice Campagnol.
C'est avec de la dynamite que plusieurs centaines de mineurs ont exprimé leur soutien à Evo Morales hier à La Paz. Ils sont venus débloquer les rues de la ville barrées par des citoyens de l'opposition qui se mobilisent contre l'élection d'Evo Morales.
Nous, le peuple, nous sommes en colère parce qu'on a piétiné notre vote et notre opinion. Et franchement, il faut être sans gêne pour croire que nous allions accepter sans rien dire.
L'ambiance était tendue, insultes, menaces et parfois même violence entre d'un côté les opposants à Evo Morales et de l'autre ses partisans.
Moi je crois que la droite ne veut pas accepter sa défaite. Tout le processus de vote a été transparent. Ce qu'ils veulent c'est prendre le pouvoir par la force en disant qu'ils sont les plus nombreux. Mais c'est faux, nous sommes la majorité et nous allons défendre notre vote.
Et Evo Morales lui-même l'a dit, si les blocages continuent, ses partisans encercleront les zones urbaines et empêcheront l'approvisionnement des villes en nourriture. La journée s'est terminée par deux grands rassemblements de plusieurs milliers de personnes, chaque camp cherchant à montrer ses forces. Le MAS, le parti de gouvernement, fêtait sa victoire. Quant à l'opposition, elle a appelé à rester mobilisée.
C'était Alice Campagnol en Bolivie pour France Culture. Notons enfin que Joshua Wong, figure du mouvement pro-démocratie à Hong Kong, a annoncé cette nuit que sa candidature aux prochaines élections locales avait été invalidée. L'ancienne colonie britannique qui vit, je vous le rappelle, sa pire crise politique depuis sa rétrocession à Pékin en 1997. Revenons maintenant en France pour quelques mots de la météo pour ce mardi. Et le temps sera souvent très nuageux sur l'ensemble du pays en France métropolitaine, avec des pluies et des vents soutenus sur les littoraux. Comptez ce matin 7 degrés à Besançon, 10 à Paris, 11 degrés à Nantes et à Lille, 16 à Lyon, 18 degrés ce matin à Bordeaux et 21 à Marseille.